Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Le débat aura été tendu, pour ne pas dire houleux, à la Chambre des communes à Ottawa la semaine dernière. Le Parlement du Canada débattait en effet de savoir s'il allait autoriser ou non la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Ce débat était une promesse du Premier ministre Justin Trudeau. Et c'est désormais chose faite. Le 5 octobre, grâce à cette ratification, mais aussi à celle de l'Inde et de l'Union européenne, le seuil minimum des 55 pays représentant 55% des émissions de gaz à effet de serre a enfin été dépassé. L'accord de Paris entre donc en vigueur. Le texte aura désormais une force juridique et ses dispositions seront applicable. Voilà donc ce qui contrariait une partie des parlementaires canadiens, car la ratification s'accompagne pour eux d'une taxe carbone annoncée par Justin Trudeau, en gage de la bonne volonté de son pays qui n'a pas toujours été un champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Tant pis pour eux, a rétorqué le ministre des Affaires étrangères. Ils se placent du mauvais côté de l'histoire, a surenchéri le chef du parti néo-démocrate. La peur, justement, de se trouver du mauvais côté de l'histoire, c'est peut-être ce qui explique que l'accord ait été aussi rapidement ratifié par de nombreux États. Moins d'un an après sa signature, rappelons qu'il avait fallu 7 ans pour le protocole de Kyoto. Mais passé l'effet de bonne surprise, que va-t-il se passer à présent? Qui contrôlera la bonne volonté des Canadiens et de tous les autres dans la réalisation de leurs promesses? L'accord de Paris sur le climat tiendra-t-il ses engagements? C'est la question que nous posons ce soir. Et pour en discuter, Dominique Bourg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Institut de géographie et durabilité de l'Université de Lausanne. Vous êtes aussi vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Je signale que vient de paraître l'ouvrage « L'âge de la transition en route vers la reconversion écologique », un ouvrage collectif avec Dominique Méda et Alain Kaufmann aux éditions Les Petits Matins. Et puis je signale aussi le dictionnaire de la pensée écologique qui a déjà un an publié avec Alain Papot, au PUF. À vos côtés pour discuter ce soir, c'est Célia Gauthier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des politiques européennes et internationales pour le réseau Action Climat. Le réseau Action Climat, c'est un réseau d'associations spécialistes des questions climatiques engagées sur la défense de l'environnement. Est-ce que c'est une bonne définition?
Oui, c'est la principale fédération des ONG mobilisées contre le changement climatique en France.
Et enfin, à vos côtés, Mathieu Vémar. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat spécialisé en droit de l'environnement et du climat. Vous êtes également conseiller de la présidence marocaine de la COP22 qui s'ouvre très bientôt en novembre. Et vous avez publié récemment avec Sandrine, c'était il y a un an, avec Sandrine Maljean-Dubois, COP21, la diplomatie climatique de Rio à Paris aux éditions Pedone. Toutes ces références sur notre site, bien sûr. Alors, le Monde avait paru un peu surpris, on va dire, devant cette entrée en vigueur rapide, finalement, de l'accord de Paris sur le climat. Je rappelle, le 5 octobre. Et en même temps, est-ce que c'était pas finalement le minimum qu'on pouvait attendre de la part d'un accord qui avait quand même été salué comme un accord absolument historique, une grande victoire qui allait enfin sauver la planète à Paris en décembre dernier? Alors voilà, cette ratification 10-11 mois après, c'est pas un petit minimum qu'on pouvait en attendre, Mathieu Vémar?
Je pense que ça reste quand même assez extraordinaire d'avoir cet accord qui rentre en vigueur si vite. C'est assez surprenant, en tout cas pour les juristes. Chacun s'accordera à reconnaître que ça prend beaucoup plus de temps, surtout pour un accord de cette importance-là. C'est quand même le premier grand accord multilatéral du 21e siècle, il faut le dire, et qui nécessite quand même pas mal d'efforts et d'engagement de la part des pays. On va en reparler tout à l'heure. Donc je pense que on a bénéficié d'un contexte particulièrement favorable avec notamment le souhait de Monsieur Obama, du président Obama, d'approuver cet accord avant son départ de la Maison Blanche, qui a entraîné une dynamique très très positive, largement soutenue par la présidence française de la COP21 et notamment par Madame Ségolène Royal.
Célia Gauthier, le réseau Action Climat a salué la bonne surprise. Vous reprenez donc les propos de Monsieur Vémar pour dire que finalement c'est quand même assez formidable cette ratification.
Oui, c'est effectivement une très très bonne nouvelle. pour le climat. Maintenant, cet accord, il faut l'appliquer. Et c'est vraiment le plus gros du travail qui reste à faire. Donc pour nous, à partir du moment où l'accord entre en vigueur, ça doit être le moment où les États se posent la question de la concrétisation des engagements qu'ils ont pris avant ou pendant la COP21. Et donc, va avoir lieu dans un mois au Maroc la COP22, hein, après la COP21 à Marrakech. Et ça doit être le moment de la concrétisation, la COP de la concrétisation des engagements. Et concrétiser les engagements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire commencer à mettre en place dans tous les pays des politiques publiques nationales qui accélèrent la transition de nos économies, des énergies fossiles polluantes, émettrices de gaz à effet de serre, vers les énergies renouvelables, les économies d'énergie. Et c'est indispensable. Aujourd'hui, la crise climatique va plus vite que la transition énergétique, et donc il va falloir accélérer la cadence.
Dominique Bourg, comment est-ce qu'on fait pour maintenir les deux caps, c'est-à-dire à la fois afficher un optimisme et puis une réjouissance sur l'entrée en vigueur de l'accord, et puis maintenir la vigilance?
Si vous voulez, les choses sont relatives, c'est aussi ce qu'il faut faire comprendre aux auditeurs. C'est que on doit évidemment se réjouir déjà de l'accord de Paris, de sa ratification et sa mise en vigueur rapide. Ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, si l'accord était appliqué en tant que tel, on a à la fin du siècle une augmentation de plus de 3 degrés largement. Donc en fait, il y a un décalage, si vous voulez. Vous avez un très bon livre d'Ami Dahan et Stéphane Ayacoute sur justement la négociations climatiques, et ils emploient le terme de schisme de réalité. En fait, il y a même, pourrait-on dire, presque une forme d'autisme entre d'un côté le processus des négociations et puis la réalité de l'autre. En fait, on a assisté depuis 3 ans un peu à une accélération. Le rythme d'élévation de la température était décuplé. Et si on voit les 8 premiers mois de cette année, on se trouve à peu de choses près à 1,3 degrés au-dessus des valeurs pré-industrielles, alors qu'on était à 8 dixièmes et 5 centièmes au-dessus en 2013. Maintenant, vous avez déjà 3 dixièmes de degré dans les tuyaux, parce qu'effectivement, un degré de concentration des gaz à effet de serre ne s'exprime pas immédiatement. Il commence à s'exprimer 30 et 40 ans après. Vous rajoutez, si vous voulez, les aérosols émis au sud, ça vous donne encore 3 dixièmes qui vont venir une fois que ces aérosols vont retomber sur le sol.
Tout à l'heure, Dominique Bourg, pardon, je vous rappelais le titre. Donc, l'accord de Paris sur le climat tiendra-t-il ses engagements? Et vous m'avez répondu, j'espère que non, sinon on va droit dans le mur.
Non, entendons-nous bien. Voilà, il faut bien comprendre les choses. C'est-à-dire, cet accord, il est fondamental. C'est vraiment le premier pas de toute une série de marches d'escalier qu'on a à monter. S'il n'y avait pas ce premier pas, ça serait dramatique. Donc là, ne me fais pas dire l'inverse de ce que je veux dire. Ça, c'est fondamental. Mais effectivement, maintenant, il faut regarder la réalité en face. Donc, on a un objectif, les 2 degrés. D'ailleurs, même avant toute cette histoire, quand vous regardez le dernier rapport du GIEC, pour maintenir l'objectif des 2 degrés, on misait de façon massive, dans la seconde moitié du siècle, sur des émissions négatives. C'est quoi des émissions négatives? C'est-à-dire, en fait, c'est des techniques d'ailleurs, qui n'existent pas. On pensait à la biomasse énergie, avec des plantes à croissance rapide, et ensuite, quand on les fait brûler pour produire de l'énergie, on capte le carbone, et puis ensuite, on le liquéfie, on le stocke quelque part. Tout ça, c'est du flan pour le moment, à peu de choses près. À quel endroit on va trouver ça? Donc, il faut bien que les gens comprennent. C'est qu'effectivement, cet accord, c'est excellent, mais on n'a que la première marche. Il va maintenant falloir monter les autres. Donc, à la fois, on a la réalité qui va très vite. On est déjà allé au-delà de ce qu'il aurait fallu faire. Donc, il va falloir qu'on redouble de nos efforts. Mais en même temps, il faut bien savoir aussi qu'il y a plein d'aspects positifs. Ça change. Les collectivités territoriales, un petit peu partout dans le monde, sont quand même beaucoup plus actives. Il y a une partie de la population qui veut vraiment aller de l'avant. Donc voilà, c'est une lutte, si vous voulez, entre la partie de la population mondiale qui veut aller de l'avant et puis l'inertie générale. Il ne faut pas oublier que notre civilisation, elle est essentiellement fondée sur le carbone. Et l'accord de Paris ne vous dit pas d'arrêter ça. Il vous parle de neutralité, il vous parle d'absorption, etc. Donc on est au début d'un très long combat qu'il va falloir mener. Il ne faut pas maintenant chanter victoire, dire on a gagné la guerre, on a gagné une première bataille qui était fondamentale. Sans cette première bataille, de toute façon, c'était fichu. Mais voilà, après, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est ça le message.
Célia Gauthier.
Je pense qu'il y a, deux étapes pour répondre à cette préoccupation de Dominique Bourg. La première, c'est qu'il faut accélérer les choses maintenant. J'en ai parlé parce que la crise climatique s'emballe. Donc, on ne peut pas attendre des années pour commencer à mettre en œuvre les engagements des États. Et ça veut dire aussi accélérer les choses en France, hein, très honnêtement. Même si on a un cadre politique qui a été créé pendant ce quinquennat, il reste encore insuffisant pour répondre pleinement à la crise climatique. Deuxièmement, c'est que les engagements des États, aujourd'hui, en l'état, nous amènent vers un réchauffement de 3 degrés. Donc, ce que les États ont annoncé pour la COP21 est insuffisant par rapport aux objectifs que l'accord de Paris établit. Et c'est ça que, je pense, Dominique Bourg voulait dire. Ce qui veut dire...
Ce qui reste un paradoxe, quand
tout
même.
Tout à fait. C'est ce fameux schisme de réalité. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, et nous pensons que ce doit être en 2018, la prochaine grande COP politique, eh bien, les États vont devoir faire de nouveaux engagements et annoncer des choses plus ambitieuses. Et pour ça, évidemment, il faut commencer à se mettre en marche maintenant.
Mathieu Fémar, comment est-ce qu'on résout ce paradoxe d'un accord qui, dont les engagements contenus ne permettent pas, en l'état actuel des choses, hein, selon les scientifiques, de maintenir un réchauffement climatique en dessous des 2 degrés, et en même temps ce côté fondamental que rappelait Dominique Bourg, c'est-à-dire sans cet accord, de toute façon, on ne pourrait pas aller plus loin.
En fait, cet accord est le moins mauvais accord qu'on pouvait obtenir. Il faut quand même le préciser. Et c'est notamment parce que il fallait préserver la souveraineté nationale d'un certain nombre de pays qui sinon ne se seraient pas engagés aux côtés des autres pays dans un accord multilatéral et d'autant plus dans le cadre des Nations Unies. Et pour ce faire, il a fallu construire l'accord autour de deux éléments principaux. Un élément qui est, qu'on va dire, descendant, autoritaire, qui la forme du traité, qui est un traité international, donc qui crée un cadre juridiquement obligatoire dans la durée pour coopérer, ça c'est une première chose, avec des objectifs qui sont collectifs, qui ne peuvent pas être individualisables, pour lesquels on ne peut pas reprocher à tel ou tel autre de ne pas avoir fait suffisamment pour l'atteindre. Donc on a cette partie, je dirais, autoritaire, descendante, venant du traité en tant que tel. Et après, on a renvoyé quelque part la balle aux pays en leur demandant d'être des pays responsables.
Vous voulez dire que les États se sont davantage engagés à coopérer plus qu'un engagement sur un objectif chiffré. L'engagement, il est sur le processus, il est sur la coopération.
Ils coopèrent, ils acceptent de coopérer dans un cadre qui leur est commun. Ça, c'est la première chose, tous ensemble. Et ils coopèrent chacun les uns avec les autres pour faire le mieux qu'ils peuvent chez eux afin de contribuer avec les autres, tous mis dans ensemble, à la réalisation des objectifs collectifs. Mais je voudrais simplement préciser, effectivement, ce qu'on a sur la table aujourd'hui, c'est-à-dire ce que les pays ont proposé avant Paris, donc avant qu'ils n'aient connaissance du contenu même de l'accord, n'est pas suffisant, et Dominique nous l'a rappelé tout à l'heure, on en va vers les 3 degrés, ce qui est très très alarmant et très très préoccupant. Mais l'accord a été construit de façon à responsabiliser les pays d'une part et à créer des dynamiques qui devraient normalement augmenter le niveau d'ambition de ces contributions nationales. Ces contributions nationales, elles vont avoir lieu tous les 5 ans, donc on va avoir un cycle d'engagement tous les 5 ans et avec un système de revue, de bilan en fait, mondial des efforts qui sont réalisés. Alors on part de très bas, de beaucoup trop bas, et Célia l'a rappelé tout à l'heure, il est impératif que avant même que l'accord ne devienne effectif en 2020, effectif voulant dire que l'on regarde ce que les pays font au titre de l'accord, mais il est évident que les politiques et mesures doivent commencer dès maintenant. Elles doivent être évaluées, elles doivent être, je dirais, améliorées dès maintenant. Mais l'effectivité de l'accord, c'est de regarder les effets.
Alors ça, c'est un élément assez important et dont on n'a pas forcément conscience que donc le contenu de l'accord issu de la COP21 ne s'appliquera finalement qu'à partir de 2020, puisque jusqu'à 2020, on est encore dans le protocole de Kyoto. Alors c'est peut-être un élément qui est difficile à comprendre. Comment est-ce que ça veut dire que les États vont quand même mettre en place leurs premiers engagements, leurs premières contributions avant 2020, Dominique Bourg?
La première période d'engagement, c'est 2020-2025. Et encore, si je crois bien, c'est plutôt pour les anciens pays industriels, pour les autres. Enfin, en tout cas, on peut réviser pour les anciens pays industriels à partir de quand? 2018, non, hein. Et puis pour les autres pays, c'est seulement à partir de 2025. C'est-à-dire que là, ils ne reviendront pas sur leurs engagements en fait, d'ici à 2025.
C'est pas exactement parce qu'il y a, voilà, ça. Je pense que finalement la date d'entrée effective d'effectivité de l'accord a peu d'importance. Ce qui compte, c'est que on est dans une course contre la montre, très concrètement.
Bah, donc ça a de l'importance alors.
Et que donc il faut commencer à l'appliquer maintenant. Et c'est ce que les États ont globalement compris. Personne n'a rétro-pédalé sur son engagement depuis la COP21. Et là, la question, c'est que un an après, il faut quand même commencer à changer ses lois nationales pour pouvoir mettre cet accord en application dans chaque pays. Mais globalement, tous les États ont montré une volonté de commencer à l'appliquer dès maintenant. Alors après, c'est à partir de 2020 qu'il y aura ces mécanismes dont parlait Mathieu Weimar qui vont s'appliquer. Mais il y a aussi des événements politiques avant 2020, notamment en 2018, j'en parlais, qui permettront notamment à la société civile, aux ONG, aux citoyens, aux chercheurs, de commencer à regarder ce que les États font déjà et de faire un premier bilan. Et c'est vraiment ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui, c'est que les États vont mener des actions, mais que ça n'ira sans doute pas assez vite si derrière, nous ne sommes pas là pour vérifier ce qu'ils font. Quand les États ont signé l'accord de Paris, ils ont reconnu qu'au-delà de 1,5 ou 2 degrés de réchauffement, l'humanité était en danger. Concrètement, les risques étaient trop importants. Donc si aujourd'hui, ils prennent des décisions qui vont à l'encontre des objectifs de l'accord de Paris, eh bien, ils le font en connaissance de cause. Ils savent, c'est en leur responsabilité propre, que telle ou telle décision n'est pas cohérente. Et plus tard, ils ne pourront pas dire « nous ne savions pas ». Donc par exemple, quand on décide d'une nouvelle autoroute, d'une nouvelle centrale à charbon, d'un nouvel aéroport, on prend des décisions contraires à la COP21 et on est responsable de sa potentielle non-application ou son non-respect.
Alors justement sur la mobilisation citoyenne, Célia Gauthier, en décembre dernier lors de la COP21, il y avait quand même une très très forte mobilisation non seulement française mais aussi mondiale qui était peut-être due aussi à l'échec de Copenhague d'avant et puis au risque et au sentiment d'urgence qui s'était installé. Est-ce que aujourd'hui avec la ratification, l'entrée en vigueur, on risque pas de perdre un petit peu la dynamique de mobilisation citoyenne?
Alors je pense qu'il y a ce risque effectivement, mais en même temps ce qui est intéressant c'est ce qu'on constate, on constate que dans les pays, ce sont plutôt les acteurs locaux qui se mettent en route et on est plutôt concentré sur l'action, la mise en œuvre, les solutions au changement climatique que sur juste de la contestation. La contestation, elle va venir et elle existe aussi déjà, on voit bien qu'il y a des ZAD qui se multiplient en France justement autour de la question climatique, mais il faut aussi avoir en tête que c'est le moment de se concentrer sur l'action, sur comment est-ce qu'on développe les énergies renouvelables, on rénove les bâtiments, on change le modèle alimentaire, on change le mode de transport. Et c'est très intéressant qu'à la fois les citoyens, les élus locaux, les entreprises s'y mettent.
Dominique Bourg, vous êtes confiant sur la vigueur de cette mobilisation citoyenne au niveau mondial?
Alors, parler, si vous voulez, de mobilisation citoyenne au niveau mondial, je pense que c'est pas très juste si on parle statistiquement. Il y a effectivement, et Dieu merci, à des degrés divers dans des milieux très différents, des minorités extrêmement conscientes et extrêmement agissantes, mais à des niveaux très différents. Ça peut être la ZAD de tel endroit jusqu'à tel conseiller financier pour la finance carbone. Donc effectivement, il y a une minorité d'acteurs, mais très agissantes, qui se mobilisent partout. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que ça se diffuse plus. C'est pas le cas. D'ailleurs, quand vous regardez, mais ça peut venir, j'espère que ça viendra. Si vous regardez, par exemple, les sensibilités politiques, la présence de ce sujet dans les différentes campagnes, quand même. Si vous regardez aux États-Unis, c'est quasiment absent. Si vous regardez en France, c'est quasiment absent. Donc, qu'on me dise pas qu'il y a une mobilisation générale des citoyens, c'est faux. Il y a une mobilisation de minorités, et heureusement qu'elles sont là, dont l'action est décisive. Encore une fois, parfois, là, on les attend pas. Vous aurez des minorités dans la finance carbone qui se mobilisent, enfin dans la finance tout court, et qui vont commencer à comprendre qu'il y a un certain nombre d'enjeux, effectivement, d'investissement qui sont risqués s'ils sont très carbonés, etc. Même en Suisse, par exemple, le pays où j'habite, c'est carrément le Conseil fédéral qui a prévenu les financiers. En Suisse, il y en a quand même un certain nombre. Attention! Faites attention maintenant à l'aspect carboné de vos investissements. Donc, on voit bien qu'il y a un changement, un basculement qui est en train de se faire, mais malheureusement, on peut pas dire, si vous voulez, qu'il y ait une mobilisation générale sur le climat. Or, c'est ce dont on aurait besoin, mais elle va peut-être venir. Parce que, en revanche, ce qui est aussi extrêmement important, c'est que la manière dont l'opinion publique va bouger, c'est aussi en fonction des événements. Donc, elle entend bien l'opinion quelque part, qu'on a une accélération du phénomène, qu'effectivement, les 2 degrés, c'est plié, mais il va falloir s'en éloigner le moins possible, etc. Donc, ça, on peut espérer, si vous voulez, que les choses venant bah, ça va se renforcer, que petit à petit, on va tous comprendre qu'il faut essayer de changer. Et plus on sera nombreux à le faire, plus ça sera aussi facile de le faire.
Alors, je ne présupposais pas d'une action citoyenne mondiale forte et a priori, mais justement, on posait la question de sans cette action-là, est-ce qu'il n'y a pas le risque que la lutte contre le réchauffement climatique sorte de l'agenda mondial, sorte de l'agenda médiatique également?
J'y crois pas. Avec les événements naturels, si vous voulez, qui vont continuer à se produire, on sortira plus de ça. Après, selon les élections, la sensibilité, les autres événements, bah, vous avez un attentat, et évidemment, c'est plus le climat qu'on va mettre en avant. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a quand même, si vous voulez, un train de fond qui me semble plutôt aller dans le bon sens, même s'il est tout au début.
Mathieu Bémard.
Oui, non, je crois que la COP21 a marqué aussi une autre avancée. C'est pas seulement l'adoption d'un accord juridiquement obligatoire. C'est pas seulement aussi l'engagement de tous les pays du monde à contribuer à la réalisation d'objectifs collectifs pour lutter contre le changement climatique. C'est aussi un agenda de l'action qui a été mis en place par les présidences françaises et péruviennes, donc qui avait démarré lors de la COP20 à Lima, qui cherchait grosso modo une chose toute simple, à rendre visibles les initiatives prises par la société civile, notamment les acteurs non étatiques. Pas seulement les ONG, hein, c'était les entreprises, c'était également les villes, les régions, tous les acteurs possibles qui cherchaient à se mobiliser. Pas seulement pour dire c'est formidable ce que vous faites, mais aussi pour chercher à créer des coalitions d'acteurs, à agréger ces initiatives. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a un regard très du Nord sur ces questions-là. N'oublions pas que les ONG dans les pays du Sud, dans les pays en développement, sont très démunis par rapport à ça. Et cet agenda de l'action a permis justement de nouer des contacts, de lancer des initiatives qui étaient, des partenariats Nord-Sud, mais au niveau de ces acteurs non étatiques, pas seulement au niveau des gouvernements. Ce pari de l'action de la société civile en soutien des gouvernements, avec quand même un objectif extrêmement louable, qui était justement de rompre avec ce schisme de réalité qu'évoquait tout à l'heure Dominique Bourg, qui était de rapprocher la sphère de la négociation de la société civile, qui, elle, fait le travail sur le terrain. Et maintenant, un des enjeux qu'on va avoir à Marrakech, pendant la COP22, c'est justement de créer un cadre qui permette, non pas d'institutionnaliser, mais de pérenniser cette reconnaissance, cette visibilité, mais aussi cette crédibilité. Il faut être capable de démontrer que ces initiatives, ce n'est pas du wishful thinking, enfin du bien-pensé.
De la pensée magique.
Magique, mais au contraire, qu'il y a des choses qui se passent sur le terrain de manière très concrète et qui peuvent être vérifiables. Donc il y aura toute une discussion à Marrakech sur le suivi des engagements des acteurs non étatiques.
Une COP, COP22, qui s'appelle d'ailleurs COP de l'action. COP de l'action et de l'innovation d'ailleurs.
COP de l'action parce que l'enjeu est différent. Il s'agit de mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc on va quand même négocier, les modalités de mise en œuvre de cet accord. Et puis il y a la COP de l'action avec l'agenda de l'action, le global de l'action qui va continuer. Avec deux championnes qui ont été nommées, dont Madame Laurence Tubiana, ambassadrice pour la France sur le climat. Et Madame Hakima El Haïté, qui est ministre en charge de l'environnement du Maroc. Qui vont avoir pour tâche principale d'être une interface entre cette négociation formelle, intergouvernementale et ce monde des acteurs non étatiques qui cherchent à, valoriser son action aussi d'une manière qui soutienne l'action des gouvernements. Donc là, on se rend compte qu'il y a des synergies à développer entre les gouvernements et leurs propres acteurs, leur propre communauté, pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau, de relations internationales grâce aux acteurs étatiques qui deviennent des passerelles entre gouvernements.
Dominique Bourg,
pardon. Je pense que c'est important d'avoir en tête que la responsabilité de la mise en œuvre de l'accord de Paris, elle repose effectivement, certes, sur les acteurs non étatiques, les ONG, les associations, les entreprises, mais aussi et surtout sur les États. Et aujourd'hui, ce qui manque à l'appel, ce sont les États. Lorsque l'Europe s'apprête à ratifier, signer un accord commercial avec le Canada qui va à l'encontre de la COP21 parce qu'il va intensifier la production de pétrole de sable bitumineux, parce qu'il va empêcher les gouvernements de pouvoir prendre des mesures politiques visant à réduire les gaz à effet de serre, l'Europe ne prend pas ses responsabilités. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cette dichotomie qui aujourd'hui n'est pas réunie. Les États ne prennent pas complètement leurs responsabilités. On ne peut pas dire que l'accord, qu'on est dans l'action ou que l'accord est complètement mis en œuvre tant qu'on n'a pas vu les États bouger. Il n'y a pas eu de basculement dans les politiques publiques après la COP21, je rappelle.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon. Alors, l'accord de Paris sur le climat tiendra-t-il ses engagements? C'est la question dont nous débattons ce soir jusqu'à 19h avec Dominique Bourg, Célia Gauthier et Mathieu Vémard.
Le président Obama a fait rentrer les États-Unis au sein de l'accord de Paris sur le climat, unilatéralement et sans la permission du Congrès. Cet accord permet à des bureaucrates étrangers de contrôler la quantité d'énergie que nous utilisons ici aux États-Unis. Des bureaucrates étrangers auront donc le droit de contrôler ce que nous utilisons et ce que nous faisons sur notre terre, dans notre pays, hors de question.
Vous aurez reconnu le candidat à l'élection présidentielle, Donald Trump. C'était dans un discours prononcé en mai dernier. Est-ce que l'accord a été pensé pour survivre au-delà des mandats des dirigeants qui étaient présents à la COP21? Mathieu Weimar, peut-être.
Oui, parce qu'il s'agit d'un cadre durable qui n'a pas de date de fin, qui fonctionne selon un cycle d'engagement qui, on l'a dit, est quinquennal. Donc à la fois, il vise le long terme, puisque quand je dis le long terme, c'est la fin de ce siècle, hein, au maximum, parce que on doit avoir réglé ce problème, je l'espère, bien avant, mais tout en tenant compte justement du rythme électoral ou politique, en tout cas, qui peut y avoir à un niveau plus national.
Donc, quand Donald Trump annonce qu'il va remettre en cause l'accord sur le climat, il ment, c'est pas tout à fait vrai. Il en aura les moyens ou pas?
On ne va pas dire qu'il ment, parce qu'il l'a dit tellement de fois lui-même. Non, simplement, là où il se trompe, c'est que M. Obama et son équipe, l'administration, a négocié cet accord de Paris de façon à ce qu'il n'ait pas à passer par le Congrès, de façon à ne couvrir que des matières qui relèvent du pouvoir fédéral et en faire ce qu'on appelle en droit constitutionnel américain un accord dit réglementaire, un executive agreement pour parler anglais, qui lui permet de signer l'accord. Et la signature, c'est une doctrine assez ancienne, hein, de l'administration américaine, permet en fait vaut approbation de l'accord au regard du droit international. Après, la question est de savoir est-ce que M. Trump veut être tenu en tant que président, si jamais il était élu, par un tel accord, et est-ce qu'il peut se retirer de cet accord. Effectivement, il y a une clause dans l'accord qui lui permettrait de se retirer, qui ne serait pas effective immédiatement. Ça, il faut le dire très précisément. Je pense qu'il ne sera pas le seul à le décider. Il y aura forcément des discussions internes aux États-Unis pour voir jusqu'à quel point il peut prendre une telle décision.
Et comme disait Célia Gauthier, quand bien même il ne sortirait pas de l'accord, la question de savoir s'il impulserait et mettrait en place les politiques publiques qui permettraient de résoudre d'honorer les contributions prévues par les États-Unis. Dominique Bourg.
Non, je voulais simplement revenir sur un point, mais c'est important quand même pour les auditeurs. J'espère que Mathieu ne va pas m'en vouloir, mais on ne va pas régler la question climatique. Hein. On doit faire face et réduire le problème. Maintenant, imaginez qu'on ait 3 degrés à la fin de ce siècle, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais 2, ça c'est certain, et probablement avant. Hein. Ça continue à augmenter. Si on avait 3 à la fin de ce siècle, on aurait à partir du milieu du siècle prochain 5, pour probablement plusieurs milliers d'années. Donc on va pas réduire régler le problème. C'est un problème gigantesque, on va basculer, on va passer dans autre chose, on entre dans ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc à la fois, il faut faire un effort extrêmement vigoureux pour réduire nos émissions, ça c'est une évidence, mais en même temps, on doit doubler cet effort, un effort d'adaptation. C'est-à-dire, de toute façon, on va devoir s'adapter à un monde qui va basculer, à un monde qui va être différent. Donc, c'est juste, j'espère que Mathieu m'en veut pas, mais c'est vraiment important de dire que on ne règle pas ce problème. On va y être confronté, si vous voulez, en continu. Alors, pour revenir à Trump, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand même, si vous regardez les différents dirigeants du monde, c'est quand même pas très très réjouissant. Hein. Erdogan, le climat, c'est quand même pas son souci. Poutine s'en fiche complètement. Trump est un cinglé, mais si jamais il a accédé au pouvoir, ça ne serait quand même pas une très bonne nouvelle. Et vous avez un ancien président de la République en France qui nous dit que le climat, enfin, vous connaissez la suite. Donc voilà, on est à un contexte qui est assez difficile. Alors, heureusement, il y a cet accord. Imaginez qu'il n'a pas été acclamé à Paris et pas ensuite ratifié. Ça serait une catastrophe. Mais là, c'est très très difficile. On voit bien que sur le plan électoral, c'est vraiment pas, et dans différents pays, le sujet qui est en pointe. Hein, j'en suis désolé, mais...
C'est justement ce qu'on essaie de comprendre, à quel point la force juridique de ce traité international, qui est quand même un traité assez important dans la hiérarchie des traités internationaux, va pouvoir s'appliquer malgré les changements de gouvernement. Célia Gauthier.
Oui, je pense qu'il faut bien comprendre que la transition énergétique, c'est un intérêt économique pour beaucoup d'États, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Chine y va. Hein. La Chine plante une éolienne par heure aujourd'hui, parce que c'est intéressant économiquement, parce qu'elle souffre des conséquences de la pollution de l'air, et parce qu'elle veut accéder à des marchés internationaux. Donc elle y va. Les États américains sont très nombreux à y aller aussi, notamment la Californie, qui est un des champions mondiaux en matière de transition énergétique. Donc quand même, malgré les propos de certains dirigeants, on a une dynamique économique qui sera compliquée à remettre en cause. Parce que derrière, il y aura des dirigeants économiques qui vont dire « Attention, nous avons des marchés qui sont des très très gros marchés, des emplois à la clé, vous ne pouvez pas faire ça. » Donc ça, c'est pour un peu atténuer le propos, les conséquences d'une demande de retrait de Trump. Maintenant, l'accord en lui-même, c'est sûr qu'il y aura forcément des conséquences juridiques si certains États s'en retirent. Mais finalement, puisqu'il n'est pas vraiment contraignant, enfin en tout cas pas pour ce qui est des engagements climatiques nationaux, c'est à travers des collaborations et des coopérations que ça va se passer. Au sein de l'Union européenne, par exemple, on fonctionne en bulle. Donc l'Union européenne compense le fait que des États soient très compliqué dans l'application d'une politique climatique comme la Pologne, qui est très dépendante du charbon, par une solidarité intra-européenne, et on réfléchit comment on peut avancer ensemble. De même, il y a une réflexion quand même très importante autour d'une solidarité nord-sud et de plus en plus sur sud-sud pour accompagner les pays en développement à accéder aux énergies renouvelables et aussi à faire face aux fameux impacts climatiques qu'ils subissent déjà de plein fouet, il faut le dire, alors qu'ils ne sont quand même pas responsables des changements climatiques à ce jour.
Mathieu Vémard.
Oui, pour répondre à votre question plus directement sur la question des alternances politiques, cette question a été relativement bien anticipée par les négociateurs lors de la COP21, puisqu'ils ont prévu ce qu'on appelle un principe de progression. C'est-à-dire que chaque contribution nationale, sachant qu'on a un cycle d'une durée de 5 ans, doit être plus ambitieuse que pour le cycle précédent. Donc, a priori, même si on a un gouvernement qui ne serait pas hyper enthousiaste avec l'idée de faire quelque chose pour lutter contre le changement climatique, serait tenu par le droit international de le faire. Et on l'a fait, ce d'autant plus qu'on savait qu'on partirait de très bas, de beaucoup trop bas. Et on avait déjà les chiffres, même avant la COP21, qu'on se situerait entre 2,7 et 3,3 degrés Celsius, avec ce qui avait été proposé avant la COP21 par les pays.
Donc l'idée, c'est d'empêcher tout retour en arrière.
Exactement. Sauf que ce point-là n'est pas tout à fait clair. C'est-à-dire, c'est quoi le point de départ ? Il y a notamment un grand nombre de pays en développement qui ont dit « nous, on veut bien, pour la première fois, faire des plans, faire des propositions pour contribuer aux côtés des pays industrialisés qui devraient le faire de toute façon parce qu'ils ont une responsabilité historique dans la création de ce problème du changement climatique. Mais on veut bien le faire à la condition que vous nous aidiez à le faire. » Et c'est là que la coopération entre en ligne de compte. Et donc, ils ont conditionné à l'obtention d'un soutien financier la réalisation, le lancement d'un certain nombre de politiques publiques dans le domaine de l'énergie, la gestion des déchets, l'assainissement, que sais-je encore.
Alors ce soutien financier, justement, on a parlé de 100 milliards de dollars déjà à Copenhague. Très concrètement, qui va payer ? Pour qui ? Qui va en bénéficier ? Sur quelle échéance ? On n'a pas des données très, très concrètes là, sur cette question.
On a des données concrètes dans le sens où l'objectif de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020, qui a été un objectif pris sous la forme d'un engagement collectif commun par tous les pays industrialisés, grosso modo les pays de l'OCDE en 1992, faut le préciser, il est sur la table, il est inscrit jusqu'en 2020 et il devient non plus un plafond en 2020, mais un plancher après 2020. C'est-à-dire qu'on doit forcément aller au-delà de cela et un nouvel objectif sera négocié d'ici à 2025. Maintenant, il est clair que les pays en développement ont raison de dire « Vous nous demandez de contribuer à l'action collective pour lutter contre le changement climatique. Nous avons fait des propositions. Nous avons dit combien cela allait nous coûter. Donc, vous devez nous permettre de faire ce que nous avez demandé de faire. » Et je pense que c'est un point très important. Il y a une pression politique très importante à Marrakech pendant la COP22, pour qu'on ait ce qu'on appelle une feuille de route sur le financement des actions à la fois en matière d'adaptation et d'atténuation. Adaptation, pourquoi ? Parce que pour les pays africains, et c'est une COP qui se tient en Afrique, c'est un sujet majeur. Il y a des pays africains qui sont très très faiblement émetteurs, mais très vulnérables aux impacts négatifs du changement climatique. Oui. Donc la question de l'adaptation est une question, j'allais dire, de survie pour certains nombres d'entre eux, en tout cas avec des enjeux de pauvreté et de sécurité alimentaire notamment, qui sont très importants.
Dominique Bourg, vous êtes confiant sur cette...
Oui,
mise en place du soutien financier.
Très optimiste et elle est vraiment dans le sens de Mathieu. Ce qui est très intéressant dans l'accord, c'est qu'il y a une espèce d'autosurveillance, si vous voulez, des pays. Il y a une espèce de mécanique comme ça qui fait que lorsque les choses vont encore aller en quelque sorte plus mal sur le plan climatique, bah, ça crée un mécanisme réactif intéressant où chacun fait pression sur l'autre puisque les accords sont publics, hein, pour pouvoir en quelque sorte monter en puissance. Alors maintenant sur la question du financement, il y a plein d'idées qui circulent. Je vous donne celle d'une fondation qui est financée par un industriel français, les établissements Serge Ferrari. La fondation 2019, c'est tout simple, ça serait une AXI, c'est-à-dire une taxe à l'accès à l'équivalent, à l'extraction, hein, des fossiles pour une tonne de carbone à 10 euros. Ça ferait une augmentation, par exemple ici, sur l'essence de 6 centimes. Mais ça vous donnerait 1000 milliards d'euros par an. Vous avez aussi des propositions qui consistent, par exemple, quand on réduit de tant de tonnes de carbone, on a une espèce de chèque, en quelque sorte, qui ensuite, une fois l'installation a été réalisée, que vous pouvez faire valoir auprès de la Banque centrale, par exemple. Il y a plein d'astuces comme ça, si vous voulez, financiers, pécuniaires, qui permettraient de faire s'accélérer le système. Donc, on part, il est vrai, très bas. On est dans un contexte politique qui est pas très, très favorable. Mais de toute façon, on a une situation qui va continuer à se dégrader. Et on a un mécanisme qui, lui, va nous permettre de réagir. Et pour revenir à ce que Célia disait tout à l'heure, c'est l'intérêt de l'économie d'aller dans ce sens-là, j'ai quelques doutes. Mais c'est l'intérêt de certaines parties de l'économie d'y aller contre d'autres. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc effectivement, il y a un certain nombre, si vous voulez, de lignes de force, de points de levier qui sont très puissants, qui feraient qu'à un moment donné, ça pourrait s'emballer, mais dans le bon sens. On en est loin, mais c'est pas impossible.
Alors, on n'a pas parlé de la question des sanctions et pour cause, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des sanctions prévues dans cet accord. Ça veut dire qu'on a davantage misé sur ce que vous expliquez, c'est-à-dire la transparence, l'idée que les États puissent se pointer les uns les autres sur leurs bonnes pratiques ou leurs mauvaises pratiques. Est-ce que ça vous paraît suffisant, cette idée de mettre au banc, de pointer du doigt ceux qui ne tiendraient pas leurs engagements pour avancer ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une sanction du peuple et des électeurs quand on est en démocratie. Donc c'est pour ça qu'effectivement le calendrier de l'accord de Paris est intéressant, hein, tous les 5 ans, de se revoir, de regarder ce que les États font, parce que nous, citoyens, ça nous permet de dire à nos dirigeants, eh bien voilà, vous êtes en dehors des clous, vous devez rectifier le tir, et s'ils ne rectifient pas le tir, de voter autrement. Et vraiment, sans mobilisation des citoyens, la sanction qui est, ou en tout cas le mécanisme prévu dans l'accord pour veiller à ce que les États respectent leurs engagements sera trop faible.
Mathieu Vémar.
Oui, je pense qu'il faut distinguer différents niveaux. Au niveau international, l'accord a tout misé sur le fait que ça passerait non pas par la contrainte, mais par l'incitation. Encore faut-il qu'il y ait les moyens d'incitation, et notamment le financement dont on parlait tout à l'heure, ou en tout cas des moyens de coopération entre les pays qui soient effectifs, par exemple pour le transfert de technologies propres. Hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Au niveau national ou voire régional, prenons le cas de l'Union européenne, c'est beaucoup plus intéressant. On a un système juridique qui nous permet, si c'est nécessaire, d'appliquer des sanctions. C'est-à-dire que, comme l'a dit Yossi Gauthier, on va avoir nos propres arrangements internes, je ne vais pas aller dans le détail, mais qui vont prendre la forme de lois européennes, donc des directives, des règlements, qui, le cas échéant, s'ils ne sont pas respectés, y compris en termes de réduction d'émissions. On a quand même proposé de faire au moins 40% de réduction de nos émissions en 2030 par rapport à leur niveau en 90. Voilà, si un pays, selon la façon dont on s'est réparti ce fardeau, cet effort, eh bien, qui n'arrive pas à remplir cet objectif sur les moyens qu'on se donne, ce qui reste à définir, eh bien, des sanctions peuvent être appliquées, y compris aller devant la Cour de justice de l'Union européenne, avec même des sanctions financières, il ne faut pas l'oublier. Au niveau national, on retrouve peu ou prou les mêmes démarches éventuellement juridiquement contraignantes, le cas échéant devant le juge au niveau des installations, mais Célia a entièrement raison. La meilleure des sanctions sera celle du peuple. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir cet agenda de l'action à côté de la négociation et de la mise en œuvre de l'accord, parce qu'on crée des liens qui ne sont plus seulement des liens de contestation, mais aussi des liens de soutien. Et quand le soutien, ne porte pas ses fruits, à ce moment-là, on peut porter une autre parole qui est celle plus dure, du désavouement.
Et bien, un enjeu qu'on continuera à suivre, notamment avec l'arrivée de la COP22 à Marrakech. Vous nous rappelez les dates ?
Oh, c'est du 7 au 16, 17 novembre, si je me rappelle bien, à peu près. J'ai plus exactement les dates. Il s'agira d'une conférence où il y aura plusieurs conférences en même temps. Hein, la conférence de la Convention climat, la conférence des parties au protocole de Kyoto, la première conférence des parties à l'accord de Paris, et ça c'est très important, parce que formellement, ça va lui donner une valeur juridiquement obligatoire.
Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Dominique Bourg, Célia Gauthier, Mathieu Vémar, je rappelle rapidement vos ouvrages qui viennent de paraître. Dominique Bourg, L'âge de la transition, en route vers la reconversion écologique, ouvrage collectif paru aux éditions Les Petits Matins. Demain, Hervé Gardette sera de retour au micro du Grain pour une émission spéciale à Beyrouth avec cette question: Syrie, y a-t-il une solution à la libanaise? Réécoute, podcast, commentaire, c'est sur la page du Grain Moudre. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre fil Twitter. Merci à Céline Leclerc, Cyril Baer, Fanny Richer, Isulte Sicard. Réalisation Jean-Christophe Francis. Prise de son Jean-Frédérix.